자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Lisons à tour de rôle. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Il se réveilla menaçant le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. »
Amen. 오늘도 감독님을 통해서
Prions pour l'évêque, parce que nous allons écouter par le Saint-Esprit nous allons écouter le message du Saint-Esprit à travers l'évêque Edongim. Donc prions pour lui, prions pour qu'il soit bien inspiré.
하나님 아버지 우리 모두가 하나님의 말씀 앞에 있나이다 하나님께서 우리 모두에게 말씀하여 주시옵소서 성령이 교회들에게 하시는 말씀이 우리의 심령 가운데 임하기 원합니다 우리 감동짐을 통해서 말씀하여 주시옵소서 배려할 사람들은 모두에게 말씀하여 주시옵소서 예수가 하나님을 분명히 깨닫는 시간 되게 도와주시옵소서 예수께서 왜 하나님 되신가를 분명히 알고
하나님 아버지 오늘 거룩한 성일을 하나님이
Tu as fixé ce jour saint et tu l'as commandé et tu nous as donc appelé à ce culte. Que tous ceux qui rentrent de ce culte soient reçus, soient consolés, fortifiés par toi. Que tous les membres de l'Église sont là qui rentrent ce culte et tous les Bériens qui sont à l'étranger soient soutenus par toi, je prie, au nom de Jésus. Chantons le cantique. Prions avant de chanter. J'ai déjà écrit un livre dans lequel j'ai dit même si on lit beaucoup la Bible, si on ne donne pas à la parole de Dieu l'autorité, on ne peut pas avoir l'inspiration. Donc il faut donner l'autorité à la Bible pour avoir l'inspiration. En fait, moi, je suis presque tué ces jours-ci. Je suis foulé. Je suis devenu presque un cadavre. Il ne faut pas que vous soyez donc dans les ténèbres, dans l'ombre. À cause de cette situation, si oui, vous allez perdre l'inspiration. Il faut que vous donniez l'autorité à l'évêque de l'Église. À ce moment-là, vous pourrez obtenir l'inspiration. Prions donc pour moi. Prions pour moi qui va prêcher la parole. Prions pour que j'ai l'autorité et, en tant qu'évêque de l'Église. Prions. Chantons le cantique 477. Chantons ce cantique deux fois. Jésus est Dieu. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu s'est montré à nous de manière active. Il est venu en chair pour se manifester à tous les hommes. Il n'y a qu'un seul Jésus, un seul parmi des dizaines de personnes. Nul ne peut le reconnaître avec les yeux physiques. Ce n'est qu'avec les yeux spirituels ouverts par la foi qu'on peut le reconnaître. Il demeure encore parmi nous et fait son travail. Qui est Dieu? Il est omniscient et omnipuissant. Il vit éternellement et il est juste. Le vent et la mer lui obéissent et appellent à l'existence ce qui n'existe pas. Il est donc Dieu. Jésus est Dieu. Il est proche de nous et neutralise toutes les tribulations venant de ce monde. Il est le Christ, le Saint-Esprit, le Paraclet qui en témoigne. Qui est Jésus? Il est Dieu. Il est le Dieu qui soumet toutes choses à lui. S'il le sanctifie, nous deviendrons saints, et s'il le sauve, nous vivrons et vivrons éternellement. Ne dites pas qui est Jésus en doutant de lui. Il est le Dieu qui est le Sauveur et Seigneur. Vous qui ne comprenez pas le fait qu'il est avec nous, qu'il est avec vous, on ne peut le voir sans les larmes de repentance. Même le baptême sans repentance ne nous permet pas de le voir. Personne n'a vu notre Dieu le Père. Personne ne peut le toucher. Mais alors Dieu est celui qui va nous apporter un hasard. Est-ce que Dieu est celui qui peut remédier à tous nos problèmes? Ça, c'est une perception de Dieu générale. Tout le monde possède ce genre de pensée. Alors que ce soit la présence de la foi, tout le monde pense que Dieu peut régler nos problèmes. Si Dieu existe, alors en temps de difficulté, il pourra m'apporter une solution efficace. Hein. Ça, c'est notre espérance. Même si on n'a pas vu Dieu, le Père, on reconnaît l'autorité de Dieu. On la comprend. Jésus nous a appris la façon de prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, on élève son nom et alors toutes les œuvres qui ont été réalisées en son nom doivent être louées. Mais c'est aussi tout ce qui a été accompli au nom de Dieu a été foulé et a été réduit à néant et méprisé et détruit. C'est dommage, mais il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. Et on dit ensuite que ton royaume, ton règne vienne. Mais qu'est-ce que le règne? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le peuple d'Israël est un peuple particulier. Il y a eu, en fait, des 100 millions de personnes dans ce monde. Donc, tous les habitants de ce monde avaient leur propre langue, leur propre terre. Et donc, il y a eu donc une diversité de peuples sur cette terre. Mais donc, il y a eu donc, le rassemblement de peuples, mais aujourd'hui, il n'y a qu'environ 200 pays. Parce qu'il y a eu l'unification, rassemblement, etc. Mais les Israélites n'avaient ni terre, et ils n'ont pas de pays. Et Jacob, qui était descendant d'Abraham, voulait éviter la famine. Il fait réfugier en Égypte pour éviter la famine. Et alors, Jacob et ses descendants ont vécu en tant que vagabonds pendant 450 ans. Et alors, donc, le nombre d'Israélites a été augmenté pour atteindre 1 million. Mais il n'avait ni terre, ni pays. Il n'avait rien. Ils étaient tout simplement vagabonds. Ils ont été donc maltraités en Égypte, mais et Dieu a donné à Abraham une promesse selon laquelle Dieu a envoyé une personne au pharaon de l'Égypte, fait sortir mon peuple de ce pays. Mon peuple me servira dans le désert. Fais sortir mon peuple de ce pays. Mon peuple me servira, m'adorera dans le désert. Fais sortir mon peuple de ce pays et mon peuple me servira dans le désert. C'était l'ordre de Dieu. Donc, alors, Dieu a envoyé beaucoup de désastres aux Égyptiens qui ne voulaient pas faire sortir son peuple du pays. Donc, alors, sous la conduite de Moïse, le peuple d'Israël est allé dans le désert. Ils ont passé la mer Rouge, ce qui est comparable avec le baptême d'aujourd'hui. Alors, ils sont sortis définitivement de l'Égypte et ils sont entrés dans le désert où il n'y avait pas d'eau ni d'herbe. C'était une terre stérile. Mais Jésus, Dieu leur a dit, « Vous êtes mon peuple. » C'est ainsi que Dieu a approuvé son peuple. Alors, le peuple d'Israël était un peuple qui n'avait pas de terre, mais Dieu leur a dit, « Vous êtes mon peuple. » C'est ainsi que Dieu les a conduits et pour les faire sortir de l'Égypte pour leurs fibres dans le désert. Donc, ils ont commencé une vie dans le désert en tant que peuple de Dieu, en tant que pays de Dieu. Ils ont été ainsi approuvés, reconnus, approuvés par Dieu. Donc, ils n'avaient pas encore de terre. Dieu les a conduits donc dans le désert pendant environ 1500 ans. Dieu a entraîné les Israélites, les a conduits de manière continuelle. Et enfin, les Israélites pouvaient entrer en Canaan. Canaan était une terre d'autrui. Et vous savez très bien la bataille entre les Israélites et les Palestiniens. Alors, les Palestiniens avaient vécu en Canaan, mais les Israélites ont envahi cette terre et ont commencé à y vivre. C'est la raison pour laquelle la discorde entre ces deux peuples et, reste encore aujourd'hui. Les Israélites ont été élevés en Égypte. Et Dieu les a fait sortir de l'Égypte et les ont entrés dans le désert, ensuite en Canaan. Et c'est ainsi que Dieu les a entraînés et élevés. Les Israélites ont cherché à établir un pays. Ils ont fait des efforts énormes pour l'établissement d'un pays, mais les Palestiniens ne les ont pas reconnus. Mais aujourd'hui, le pays d'Israël est reconnu mondialement. Alors, les Israélites constituent le peuple d'Israël dont le roi est Dieu. Et alors, le peuple d'Israël ont aspiré donc à établir un pays dominé par Dieu. Mais alors, il y a eu beaucoup de sacrifices de leur part, mais ce n'est qu'une parabole. L'Israël compte seulement 7 millions de personnes. Mais le royaume de Dieu vient en tant que parole, en tant qu'esprit. Et si on a une âme, alors Dieu dit, Tous ces âmes constituent mon peuple, c'est ainsi que Dieu les reconnaît et les conduit. Et les fait sortir de ce monde. Alors le monde est comparable à l'Égypte. Et alors dans ce monde, on s'acharne, on se bat et pour la chair. Donc la chair persécute l'âme pour que cette âme ne soit pas libérée de ce monde. Mais comme Dieu a ordonné au Pharaon et de faire sortir son peuple de du pays, toutes les âmes constituent le peuple de Dieu. Alors, dans le monde entier, donc, il y a la domination de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut donc établir son pays dans le monde entier. C'est ce que nous devons bien comprendre. C'est un mystère, c'est une merveille. On ne peut pas voir notre Dieu avec nos yeux physiques. C'est la raison pour laquelle et on s'interroge. Et alors, si on peut le voir, si on peut l'écouter, et on pourra être bien clair. Et on sera bien content, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'écouter. C'est pourquoi on s'interroge sur lui. Mais notre Dieu n'est pas un être conceptuel, il est une réelle existence. Il ne faut pas l'imaginer d'une manière philosophique et conceptuelle. Il est une réelle existence. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique au monde. Alors, depuis le commencement jusqu'à présent, il y a eu des centaines de milliards de personnes qui ont vécu dans le monde. Mais aujourd'hui, le monde compte 7 milliards d'habitants. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, il y a eu beaucoup de personnes dans le monde. Parmi une grande multitude de personnes, il y a eu quelqu'un de particulier. Mais personne ne pouvait pas le reconnaître. Jésus a dit, « Pourquoi vous êtes là? Et vous voulez chercher une personne portant un habit somptueux? Si oui, vous devez aller au palais royal. » Ou bien, qu'est-ce que vous voulez voir? Et qu'est-ce que vous cherchez? Comme Jésus l'a dit, les hommes imaginent un certain Dieu avec leur propre tête, avec leur propre intelligence. C'est ainsi qu'on imagine Dieu, par exemple. Alors, Dieu est celui qui est rempli de lumière, qui éclaire le monde, qui est très heureux, qui est très glorieux. C'est ainsi qu'on imagine Dieu. C'est pour là qu'on ne peut pas le chercher, on ne peut pas le trouver. Mais il est vraiment près de nous. Il est avec ceux qui souffrent. Il est vraiment le plus près de ceux qui souffrent, de ceux qui sont en train de mourir. Mais on ne peut pas le voir parce qu'on le méprise, parce qu'on ne lui donne pas une autorité adéquate et correcte. Même s'il le parle, et même si Jésus nous parle, alors quelle est son origine? Alors, il est l'originaire de Nazareth. Alors, comment Dieu peut naître à Nazareth? C'est ainsi qu'on ne reconnaît pas son autorité. Parce qu'à Nazareth, il n'y avait pas de riche ni personne remarquable, ni personne. Il n'y a eu personne ayant un habit somptueux. Jésus a été crucifié. Un brigand qui était à côté de Jésus lui a dit, « Alors moi, je suis crucifié, alors toi aussi, donc je suis le même que toi. Mais si le Christ, sauve-moi, c'est ainsi qu'il s'est moqué de Jésus, il a méprisé Jésus. » Alors, ce brigand lui a dit, « Alors, est-ce que tu es le Christ? Tu ne peux pas te sauver toi-même? » À ce moment-là, comment tu m'as sauvé alors? Comment tu peux me sauver? Parce que ce brigand a vu Jésus crucifié. Alors, il est mis sur la croix. Il est en train de mourir sur la croix. Il a été maudit, il a été maltraité. Il a été méprisé comme lui. Alors ce brigand, et s'est moqué de ce Jésus à côté, qui était à côté de lui. C'est ainsi que ce brigand n'a pas reconnu l'autorité de Jésus. Voilà, c'est ce que fait les gens de ce monde. Mais un autre brigand a dit, même si Jésus était dans la même situation que lui, parce que Jésus était aussi en train de mourir comme lui, mais il a réagi autrement, différemment. Un autre brigand n'a pas considéré Jésus comme un Nazaréen. Il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Ce brigand a dit, « Seigneur, Jésus a été sur le point de mourir. » Mais ce brigand, il lui restait quelques heures avant de mourir. Donc ce brigand a dit à Jésus juste avant de mourir, « Seigneur, si tu veux, alors si tu arrives à ton royaume, souviens-toi de moi. » Ces trois personnes étaient donc dans la même situation. Et alors, une personne n'a pas reconnu l'autorité de Jésus, une autre a reconnu l'autorité de Jésus. Donc voilà, et ce sont deux réactions différentes. Alors, dans ce monde, on peut être méprisé, maltraité, on peut être tué comme un criminel. Alors, on peut être crucifié. Alors, ce Jésus a été donc ainsi. Alors, personne n'a reconnu Jésus. Alors, il est impossible de persuader les gens de ce monde de croire en Jésus parce que Jésus était totalement maudit dans ce monde. Alors, notamment, les intellectuels n'arrivent pas à croire Jésus, à reconnaître l'autorité de Jésus. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Même si Jésus est dans la même situation que nous, même si Jésus était en train de périr comme des criminels, un brigand qui était à côté de Jésus a respecté l'autorité de Jésus et il a dépendu à s'attacher à lui. C'est ça la foi. Alors vous, quelle est votre perception de Jésus? Alors nous, en fait, au sein de l'Église, il y a donc un évêque. Alors notre Église a été totalement maudite. Mon autorité, mon honneur ont été totalement bafoués. Je suis vraiment totalement maltraité. Mais si vous méprisez l'autorité de l'Église, l'autorité de l'évêque, vous ne pouvez pas avoir d'opportunité et de la part donnée par Dieu. Je vous ai demandé de prier pour moi et parce que ça, c'est utile pour vous. Même si on est dans la même situation, même si j'ai été jugé comme quelqu'un de pécheur, alors je n'ai aucun espoir donc, dans ce monde, mais il faut que vous reconnaissiez l'autorité de l'évêque. À ce moment-là, vous pouvez confier le sort de votre sort à Dieu. Alors, un brigand, un mauvais brigand a dit, alors, tu es comme moi. Je ne peux pas te reconnaître comme le Christ, mais un autre brigand reconnaît l'autorité de Jésus. Voilà, c'est ça la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Pourquoi on ne peut pas être sauvé? Parce que vous méprisez Dieu, parce que vous ne donnez pas d'autorité à Dieu, parce que vous reniez l'autorité de Dieu. Mais vous avez écouté beaucoup de sermons jusqu'à présent, n'est-ce pas? Qui est Dieu? Vous avez écouté beaucoup de sermons pendant des semaines, mais vous ne comprenez rien, même si vous avez écouté beaucoup de paroles de Dieu pendant des années, vous ne comprenez pas. Et alors, qu'est-ce que la Bible dit en ce qui les concerne? Parce qu'à cause de notre propre philosophie, à cause de notre propre raison, on ne comprend pas la parole de Dieu. Donc, vous allez périr à cause de cela. La Bible dit, si on ne peut pas croire, c'est parce qu'on est déjà destiné à périr. 2 Corinthiens 4, 3. Donc, il est destiné à périr si on n'arrive pas à croire. Mais, alors, même si... On n'a aucun espoir dans ce monde. Même si on est dans une situation particulièrement difficile, il faut posséder la foi jusqu'au bout. Et alors, quelle est notre foi? Jésus est l'image de l'être Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. C'est ce qu'il est dit. Hein? Mais les dieux de ce monde ne croient pas en Dieu. Et sème de la confusion en nous. Mais lorsque nous croyons que Jésus est Dieu, nous serons sauvés. On n'a pas d'inspiration, ça c'est vraiment redoutable. L'absence de l'inspiration est redoutable. Il faut l'inspiration pour pouvoir reconnaître Jésus. Mais qui est Jésus? Qui es-tu? La Bible dit, quels sont nos besoins les plus urgents? Ce sera en fait la maison, la nourriture, le vêtement. Hein? Ce sont les premières nécessités des hommes. Par le passé, on était tous pauvres, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas bien mangé. Et même si on vivait de l'eau, les personnes âgées disaient bois de l'eau rapidement. De manière rapide et brillante. Parce que avoir faim, c'est quelque chose de honteux. Donc, lorsque vous vivez de l'eau, faites du bruit pour que les autres vous reconnaissent. Donc, lorsque on vivait de l'eau, on a fait du bruit lorsqu'on vivait de l'eau pour montrer cet acte aux autres. Parce qu'on ne voulait pas montrer notre pauvreté. Notre situation pauvre aux autres. Donc voilà quel donc nous avons beaucoup de besoins urgents, mais un cas voilà en temps de difficile. Et alors lorsqu'on allait au marché et qu'est-ce qu'on avait acheté? Lorsqu'on va au marché, on allait au marché, on voulait bien s'habiller. Donc, pour les Coréens, parmi ces trois choses, la nourriture, la maison, le vêtement, c'est le vêtement qui compte le plus pour les Coréens. Donc, lorsqu'on va au marché, et on peut penser à tort qu'il n'y a que des riches au marché parce que tout le monde s'habillait bien. Donc, on portait bien des vêtements, on s'habillait bien, même si on a faim, on a porté un bon vêtement pour se montrer aux autres. Mais même si on s'habille bien, il faut manger, n'est-ce pas? Si on mange bien, et ensuite on doit donc loger quelque part. Donc de ce point de vue, on a besoin d'une maison. Donc voilà, c'est ça la mentalité des Coréens. Donc d'abord le vêtement, ensuite la nourriture et la maison. Mais même si on n'a pas de vêtements, on peut vivre. Même si on n'a pas de vêtements, on peut vivre. Alors, les Coréens ont beaucoup, beaucoup de vêtements. Et vous pouvez vous habiller toute votre vie avec des vêtements actuels, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de vêtements, je pense. Et alors, on dépense des dizaines de milliers d'argent pour acheter un vêtement et dans quelques années, on le jette dans la poubelle. Mais lorsque vous tombez malade, est-ce que ce vêtement pouvait vous sauver? Et lorsque vous êtes sur le point de mourir, est-ce que ce vêtement pouvait vous sauver? Même si on mange bien, alors on peut mourir d'un cancer. On peut mourir d'un cancer de l'estomac, par exemple, même si on mange bien. Même les jeunes peuvent mourir à cause de maladies. Même si on habite dans une belle maison, dans une grande maison, on ne peut que mourir. Même si c'est une grande belle maison, il y a des cadavres peuvent sortir. Ce qui est le plus urgent, ce qui est le plus enviable pour les hommes, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, vous vous inquiétez encore des vêtements, vous inquiétez encore de quoi manger, de quoi vêtir. Mais un beau vêtement ne peut pas vous sauver. Bien sûr, on peut être dans le luxe si on s'habille bien, même si on mange bien, et on peut subsister seulement pendant quelques heures, mais ce vêtement, cette nourriture ne peut pas nous sauver, même si une grande maison ne peut pas nous sauver de la mort. C'est pourquoi la Bible nous indique « Tout le monde a peur de mourir toute sa vie. » Donc, c'est la mort qui est le plus redoutable, même si on a beaucoup d'argent. Un imbécile dit « Alors, moi, je vais garder mon argent jusqu'au bout, et même si je mourrai, à ce moment-là, il mourra, tout simplement. » Il est stupide. Voilà, donc, ce qui est le plus redoutable pour les hommes, c'est la mort. Donc, en fait, on tremble, on a peur de mourir à cause des maladies. Par exemple, on peut être mis dans l'eau, on peut tomber dans l'eau, on peut rencontrer un accident de voiture. C'est ainsi qu'on a peur de la mort. Mais ça concerne la chair. Et alors là, c'est ainsi qu'on se bat pour sauver sa chair, pour faire vivre sa chair. Et lorsque j'étais petit, dans mon village, il y a eu l'armée américaine. Il y a eu donc une troupe américaine. Cette troupe américaine a demeuré dans mon village pendant un mois, presque pendant un mois. Donc les habitants de ce village et se sont réunis pour ramasser les ordures que les soldats américains ont laissées. Donc, ils voulaient donc ramasser les ordures utiles, entre guillemets, laissées par des soldats américains. Les Américains, eux, en fait, ils utilisent beaucoup de poudre pour voir que des choses, pour fabriquer des poissons. Donc, les habitants de mon village ont ramassé ces poudres et ils pensaient que ces poudres pouvaient être servies comme un médicament. Et alors, ils ont fait manger ces poudres à leurs enfants lorsque ceux-ci étaient malades. Ils pensaient que ces poudres étaient un bon médicament parce qu'ils étaient en ignorance. Et quelques années après, ils ont utilisé toutes ces poudres. Et alors quelqu'un a dit, « Ah, mon enfant est malade, est-ce que vous avez ces poudres ?» Et alors, nous, en fait, pour nous, ces poudres sont précieux pour pouvoir les utiliser en temps d'urgence. Alors, si on a mangé ces poudres, on a été guéri. C'est bizarre, hein? Voilà, donc, beaucoup de personnes ont été à la recherche de ces poudres qui étaient très amères pour manger. Voilà, donc, c'était le seul moyen, la seule méthode de pouvoir vivre. Alors, qui est Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que notre Dieu est celui qui est somptueux? Alors, quels sont les attributs de notre Dieu le Père? Il est unique. On parle de l'unicité de Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Il est unique, seul Dieu est unique. Alors, seul Dieu peut me faire vivre. Donc, voilà. Voilà, ces poudres étaient poudres café. Alors, pour pouvoir vivre, on voulait à la recherche de ces poudres, de café de manière désespérée. Mais qu'est-ce qui peut nous faire vivre? Qui peut nous sauver? C'est Dieu le Père. Alors, comment on peut le trouver? Il est unique, n'est-ce pas? Il est unique. Et c'est lui qui peut me sauver. Il est unique parce que c'est lui qui peut me sauver. Même si on est tombé malade, alors on peut comment aller au médecin. Mais les médecins sont limités. Ils ne peuvent pas faire vivre ceux qui sont déjà destinés à mourir. Alors seul Dieu peut me sauver. Alors celui qui peut me sauver de manière unique, c'est qui? C'est Dieu. Qui pourra vous sauver de l'enfer? C'est Dieu. Qui pourra vous sauver d'une perdition éternelle, d'un châtiment éternel? C'est Dieu. Donc notre Dieu est unique. Donc voilà, l'unicité, c'est l'attribut de Dieu. Il faut que nous connaissions le Dieu unique. En temps difficile, alors aussi on connaît des personnes de haut grade, par exemple, à la Maison Bleue. Et alors, c'est lui qui est Dieu. Alors, qui pourra vous sauver de la crise actuelle? Qui est unique? Qui est l'unique qui peut vous sauver de la mort? Qui pourra vous sauver de la perdition éternelle? Qui pourra vous sauver de la mort? Qui pourra vous ressusciter? Qui pourra vous empêcher de mourir éternellement? C'est qui? Il faut que nous sachions la réponse à ces questions. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu de n'importe Dieu. Vous avez fabriqué des idoles, mais ces idoles, est-ce que ces idoles peuvent vous sauver? Est-ce que ces idoles peuvent vous sauver de la mort charnelle, même de la mort éternelle? C'est la raison pour laquelle il faut que nous connaissions le Dieu unique qui peut me sauver de la mort éternelle. Alors, où est Dieu? Où est ce Dieu unique? Alors, il nous a envoyé Jésus-Christ, mais ce Jésus a été méprisé parce qu'il est originaire de Nazareth. Il a été vraiment doux et il n'avait aucun caractère qui lui a permis de se battre et de se corréler avec les autres. C'est la raison pour laquelle il a été méprisé. Mais ce Jésus peut me sauver. Ce Jésus peut me sauver. Donc, Jésus est qui? Jésus est qui? Voilà, Jésus est Dieu. De valeur dite à votre voisine, cela. Qui peut vous sauver? Qui peut te sauver de la mort? Dites Amen si vous y croyez. Alors, vous allez parler de l'unicité en sortant de la salle, n'est-ce pas? Et alors, vous allez dire, alors j'aurais du mal à croire en Jésus, mais ce n'est pas la peine de dire ce genre de choses. Alors, croyez bien en Dieu, vous êtes destiné à aller à l'enfer. Qui pourra vous sauver de l'enfer, de cet enfer? Qui pourra te sauver de l'enfer? C'est Dieu. Alors, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? C'est Jésus. Alors notre Dieu qui est unique, c'est Jésus. Dites, répétez, alors mon Dieu unique, c'est Jésus-Christ. Le Christ signifie Dieu, le Seigneur, le Maître, le Seigneur et Sauveur. Donc, ce Jésus-Christ est Dieu. Jésus est le Christ, donc, ce Jésus est le Seigneur. Il est le Sauveur. Dites à votre voisine, et pourquoi il est unique? Et qui est Jésus? Pourquoi il est Dieu? Pourquoi Jésus est Dieu? Ne prétendez pas connaître tout ce qui le concerne ne prétendent pas être dans la connaissance. Elle ne prétendait pas être dans la connaissance. Alors dites à votre voisin, voisine, ce que vous avez appris tout à l'heure. C'est tout simple, n'est-ce pas, hein? C'est vraiment simple. Alors voilà, on a bien terminé. Hein? Trop facilement, tu penses, mais voilà, c'est vrai. Alors ce Dieu-là, ce Jésus, est venu sur cette terre, mais il a quitté ce monde. Il est venu par le Saint-Esprit. Alors Jésus a dit, il est utile que je vous quitte. Voilà, s'il ne quitte pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Si Jésus reste sur cette terre, alors Pierre était toujours à côté de lui, alors c'était Pierre qui pourrait être le plus heureux, parce que celui qui est unique est toujours avec lui. Alors ce Dieu unique est toujours avec lui. Mais si on n'a pas la télévision, on ne peut pas voir grand-chose, n'est-ce pas? Mais il est monté dans les cieux et par le Saint-Esprit, il est entré dans tous les âmes. Il n'est pas loin de nous. Il peut, et alors nos âmes peuvent l'accueillir librement et de manière illimitée. Mais si nous méprisons nos âmes, il est loin de nous parce qu'il est invisible. On ne peut pas le trouver. OK? Prenez le point. Mon âme ne méprise pas Jésus. Mon âme ne méprise pas Jésus. Mon âme ne méprise pas Jésus. Alors, il faut que les membres de l'Église s'en naquent. Il faut que vous écoutiez l'Évangile hein, lorsque je suis en vie. Il ne faut pas que vous dépensiez votre temps en me haïssant. Et connaissez Jésus en écoutant mon sermon. Alors, les disciples de Jésus avec alors Jésus, donc ils étaient sur la mer. Alors, la mer en fait, dans la Bible, ils utilisent le même mot pour indiquer, pour désigner la mer ou le lac. Donc, on parle de la Galilée, de la mer de Galilée ou bien du lac de Galilée. Donc, voilà, les disciples, Jésus était sur la mer avec Jésus, en fait. Mais il y a eu un grand tumulte. Il y a eu de grands flots, de grandes vagues qui se sont soulevés, dont les disciples de Jésus ont été vraiment surpris. Mais qu'est-ce que faisait Jésus dans cette situation? Jésus était sur la barque. Donc, en fait, Jésus était sur le côté où se trouvait le moteur de la barque et il s'endormait sur la barque. Il y a eu de grands flots, de grandes vagues. Moi aussi, hein, j'ai pris une barque. Et alors, donc, il y a eu beaucoup de bruit qui sortait de ce moteur. Alors, c'était vraiment bruyant, mais il y a eu beaucoup de vent. Et voilà, donc, les disciples de Jésus ont été vraiment étonnés, hein? Mais je pense que Jésus ronflait même lorsqu'il s'endormait. Mais vraiment, la mer s'est soulevée. Les disciples de Jésus étaient dans la peur et dans l'embarras. Et ils ont dit à Jésus, « Seigneur !» Et alors, vous voyez que nous sommes en train de mourir. Mais Jésus était paisible hein, lorsqu'il s'endormait sur la barque. Et il fallait que Jésus se lève pour leur donner une certaine sagesse, pour les sauver, et c'est ce qu'ils pensaient, je pense. Alors, ils ont même pas imaginé que Jésus pouvait menacer le vent et la mer pour les apaiser, mais les disciples de Jésus pensaient que Jésus, qui était leur maître, pouvait les aider quand même de sortir de cette situation en utilisant certains moyens. Donc, alors, il leur a dit, Jésus, sauve-nous. Donc, face à cette situation, Jésus était le Dieu unique qui pouvait les sauver d'une telle situation. Alors, qui est Dieu? Alors, c'était Jésus qui pouvait le sauver. C'est pourquoi il leur a dit, sauve-nous, sauve-nous. Alors, Jésus dit, après s'être levé, et il a menacé, il a reproché la mer et le vent. Alors, le vent et la mer ont été apaisés. Alors, les disciples de Jésus étaient vraiment surpris par cela. Mais Jésus leur a dit, vous, les gens de peu de foi, vous, les gens de peu de foi, pourquoi vous avez peur? C'est ainsi que Jésus leur a dit, soyez en paix. Alors, notre situation est en grande crise. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de flots qui entrent dans notre grand église, n'est-ce pas? Mais Jésus est paisible. Alors, je suis moi aussi paisible parce que Dieu m'a donné, ce Jésus m'a donné la paix qu'il possédait. Voilà, nous ayons cette paix. Alors, ce Seigneur est notre Dieu. N'ayons pas de mourir. Celui qui nous donne la paix face à cette menace est Dieu. Il nous donne la paix. Celui qui nous donne la paix, c'est Dieu. C'est Jésus qui nous donne la paix de Dieu. Il faut qu'on doit croire en Jésus. Il faut que nous sachions la raison pour laquelle on doit croire en lui. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour que nous puissions croire en Jésus. Voilà ce qui s'est passé en nous. Donc le Saint-Esprit est entré en nous. Cela signifie que ce Dieu n'est pas loin de nous, mais il est en nous. C'est ce que garantit le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, puisque le Saint-Esprit est en nous, Jésus est en nous. C'est ce que nous savons par le Saint-Esprit. La présence de Jésus-Christ en nous. Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Où es-tu? Par le Saint-Esprit, on peut le savoir. C'est ça la vérité. Le Saint-Esprit est donc l'esprit de la vérité. Levez-vous. Levez-vous. Et voilà, reconnaissons la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Prions. Alors, notre Dieu est unique. Moi, je crois en toi. Je vais t'obéir. Je vais t'aimer. Prions. Prions pour cela.